Voilà, bonjour à tous. On revient un peu à la maison. Quelque part, on a vécu pas mal de choses ici dans ce lieu. Il y a un peu de temps en arrière, c'était une saison spéciale, pas évidente parfois, au moins pas pour tous. Normalement, c'était. On a vécu des choses qui nous ont aussi bouleversés parfois. Moi, de la bonne façon. Il y a plus de technologie maintenant, voilà. Mais cette saison-là est passée, donc c'est une vieille saison maintenant, et on ne peut plus retourner à cette saison-là. Depuis, on a vécu avec Paula plusieurs saisons. La dernière, ce n'était pas une des plus faciles de notre saison, surtout l'année 2018-2019. Il y a des saisons, on l'a chanté, il y a des moments sur la montagne, des moments qu'on est dans la vallée. Alors ça, c'est différentes saisons. Mais chaque saison a un but pour nous préparer pour la saison suivante. Et normalement, on a l'habitude de vivre toujours de la même saison. On est des habitudinaires. Et quand on rentre dans une ornière, aussi, c'est comme ça, on reste toujours là-dedans, on a de la peine à s'en sortir. Surtout quand on est un peu avancé en âge. Pas cela, mais l'âge. j'ai un oncle ici qui aime beaucoup les blagues, donc je rentre un peu dedans. OK. Donc, mais en effet, il n'y a pas un âge dans lequel on peut s'arrêter et dire, oh, bon, ça c'est bon, c'est fini. Moi, je ne suis pas content de la saison dans laquelle je suis. J'attends la nouvelle saison. On est déjà dans la nouvelle saison de quelque part, peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte, parce qu'on a un regard toujours un peu sur le vieux, et on n'arrive pas à voir le nouveau qui vient. Mais chaque fois que Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle saison, il nous prépare, il nous donne la perspective de ce que c'est la nouvelle. Et ça, c'est pour nous préparer, être prêts à rentrer, parce qu'il y a des changements à faire. Et changements perturbe parfois, parce que Dieu doit changer des choses. Une des choses, je pensais avant, une des choses plus difficiles, c'était comme ça aussi pour d'autres dans la Bible avant nous, dans la vie du passé, comme Abraham. Parfois, c'est vraiment... Oula, ma femme fait... Déjà, savoir qu'il y a une image de moi derrière, ça me dérange. Déjà, ça, c'est pas... Bon, c'est pas la... Parce qu'on voit tout, malgré que ma femme me donne une crème chaque jour pour les rides, mais avec ça, c'est pas... ça va quand même. Merci. Je suis ravissant. Non, je m'appelle Anne. C'est pour Anne, ça. OK. Donc je disais, pour entrer dans la nouvelle saison, parfois il faut couper le cordon ombilical avec le passé et la génération d'avant. Je dis, on est dans une saison, on s'habitue, on aime certaines choses de cette saison, mais Dieu nous amène toujours plus loin. Et donc, il y a un moment dans lequel même les bonnes choses, ce qu'on a vécu comme des bonnes choses, elles sont plus bonnes pour la nouvelle saison. Ce n'est pas qu'elles étaient mauvaises, elles étaient pour la saison du passé, mais pour la nouvelle saison, il faut changer des choses, même abandonner des choses qui étaient bonnes dans celle d'avant, mais elles sont plus bonnes maintenant pour la nouvelle. Et donc, on doit toujours être ouvert à ce que Dieu nous donne. Et nous sommes dans cela depuis septembre de l'année passée, que nous sommes rentrés de l'année 5780. Nous sommes déjà dans une autre saison, mais pas tout le monde était encore aligné avec ça. Nous aussi, on essaie d'être aligné. Et il y a des choses, donc, il y a des choses qu'il faut abandonner, comme... les habits qu'on a portés pendant la vieille saison. Je cherche de rentrer dans le sujet, je vais aller vite, mais on a l'habitude de vivre avec les habits de la passée saison, je ne sais pas comment le dire, et ces habits sont, de la saison passée, ces habits sont devenus vieux, ils étaient bien pour cette saison-là, et parfois on a mis des habits qui n'étaient même pas pour cette saison. Et parfois nous voulons rentrer dans la nouvelle saison, soit avec ces habits-là, ou des habits qui ne sont pas ceux que Dieu a pour nous pour y entrer. Je vous explique ce que ça veut dire. En effet, je devrais parler de manteau, mais je vais y arriver. Pour entrer dans la nouvelle saison, une chose qu'il faut faire, c'est que nous devons être alignés avec Dieu pour la nouvelle saison. Pas alignés avec nos pensées, nos traditions, ce qu'on a fait avant. La saison qu'on était là, 97-98, c'était une saison spéciale pour nous. Et parfois, je le regrette pour cette saison-là. Et Dieu dit non, mais c'est pas le cas, ça sert à rien, on va le regretter. Il faut voir ce que c'est nouveau. Le Seigneur nous a promis qu'on verra des choses plus grandes de ce qu'on a vécu dans ce temps. Et que donc, il faut être prêt à être bouleversé tout à nouveau. Mais je dis, il faut être aligné avec Dieu. Il faut savoir comment se positionner pour la nouvelle saison. Et ce que je veux partager aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais c'est que nous, on doit à nouveau découvrir dans cet alignement avec Dieu qui était toujours vrai pour nous, mais plusieurs fois dans différentes situations, nous nous sommes sortis de cet alignement et nous avons mis sur nous-mêmes des habits ou des manteaux qui ne sont pas ceux qui sont en accord avec Dieu. Vous allez comprendre pendant que je parle. C'est rien de nouveau en effet, c'est la Bible. La Bible est la Bible. Mais c'est que nous, on s'est éloigné plusieurs fois de ce que la Bible nous a appris. Et c'est le temps dans lequel nous vivons, dans lequel Dieu est en train de préparer son épouse pour son retour. Et là, on doit rentrer dans un chemin un peu plus aligné avec lui. On peut pas. C'est du sérieux. Je crois qu'on est dans un temps sérieux. Nous vivons des temps difficiles. Nous sommes en train d'aller dans des temps très difficiles. On a risqué de rentrer dans la Troisième Guerre mondiale, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'éviter. La Bible dit qu'il y aura cette Troisième Guerre mondiale. Il y a tellement de problèmes. Et Dieu a choisi un peuple pour être une lumière parmi tout ça, et nous sommes ce peuple. Et c'est un moment spécial qu'on n'a jamais vécu. Je veux dire, c'est vraiment la fin du temps. C'est du sérieux. Et on ne peut pas être superficiel, on ne peut pas être juste un peu comme ça. Il faut être aligné avec Dieu. Et je veux lire un texte qui me touche beaucoup, je commence par cela. C'est 1 Jean chapitre 17, du verset 4. À la fin de son ministère, Jésus a dit, ça c'est la prière de Jésus au Père, chapitre 17 de Jean, il dit comme ça. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il y a quelques mois, ça m'a beaucoup touché ça, parce qu'enfin, quand on est un peu plus avancé en âge, on sait qu'il n'y a pas encore beaucoup de temps devant nous, et quand même, nous devons rendre compte de notre vie sur la terre, de ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli, ce que Dieu s'attendait de nous. Et Jésus a dit, « Je suis arrivé au bout, je glorifiais ton nom en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. » J'ai dit, « Seigneur, où suis-je ?» dans cela. Et je me suis posé la question, parce qu'enfin, ça, c'est le tout de notre vie. Et glorifier le Seigneur, ce n'est pas notre façon, c'est surtout en accomplissant ce que Dieu a préparé pour nous d'accomplir, son projet pour nous. Et c'est là que Jésus a dit, moi, je l'accomplis. Et parce que je l'accomplis, c'est dans ça que je te glorifie ton nom. Et ça, c'est la grande question maintenant de ma vie. Je veux dire, Seigneur, où suis-je dans ce chemin? À quel point je suis? Est-ce que vraiment, j'ai vécu ce que tu voulais que je puisse vivre, ce que je dois vivre, ce que tu as préparé pour moi de vivre. Et une des choses, des œuvres que Dieu a accomplies, en particulier, on le trouve toujours dans Jean 17, verset 6. Je dois lire en français, oui, c'est vrai. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Et après il dit, tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors c'est pour faire le résumé, dans quelle façon Jésus a glorifié son Père en faisant l'œuvre que lui a donnée. C'est que le but de cette œuvre en particulier, c'est de faire connaître le Père aux gens. Parce que connaître le Père, pas connaître dans une manière intellectuelle comme nous avons l'habitude dans le monde occidental, mais une connaissance par expérience, quand nous touchons la vie du Père, quand nous rentrons en communion avec lui, et nous le connaissons esprit, cœur à cœur, comme vous voulez, c'est là que nous recevons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas juste croire en Jésus-Christ et nous sommes sauvés, c'est la vivre, c'est l'expérimenter, cette vie éternelle. Et cette vie éternelle coule dans notre relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'était le but. Enfin, de tout ce que Jésus a fait, son but principal, c'est de faire connaître le Père. Alors, je dis, ça, c'est aussi notre but. C'est ça, c'était le but de Jésus, c'est le même. Alors, nous sommes appelés à accomplir l'œuvre que Dieu nous a donnée, mais accomplir cette œuvre, ça veut dire donner aux autres le moyen de connaître le Père, de vivre la communion avec lui, afin qu'ils puissent, eux aussi, vivre, pas seulement entrer dans la vie éternelle, mais vivre ce fleuve de vie éternelle. Amen. Et dit, Seigneur, c'est une grande question pour moi. Et je me suis posé la question, dans ces temps, je me pose pas mal de questions pour savoir quelle est la réponse de Dieu, pas ma réponse. Mais pour vivre tout ça, il y a une chose que j'ai découvert, c'est là que je partage ce matin, c'est au moins un chapitre de ça, et c'est que pour entrer dans cette nouvelle saison dans laquelle nous allons vivre plus spécifiquement ce que c'est le mandat de Dieu pour nous et par lequel nous allons manifester et libérer la connaissance du Père, nous devons être alignés sur trois piliers fondamentaux qui sont tous les trois fondés sur l'œuvre de rédemption de Jésus. Et ces trois piliers ont à faire surtout avec notre positionnement devant lui pour être, vivre et servir ce qu'il est digne de recevoir de nous. Et ces piliers, ils ont à faire avec ce que nous sommes en lui. Tout est basé sur la... Jésus a fondé son ministère sur le fait que lui, il connaissait qui il était dans la relation avec le Père, parce que le Père, en plus, avait affermi cette réalité au baptême, qu'on lui a dit, tu es mon fils bien-aimé dans lequel je trouve tout mon plaisir. Ça, c'était le fondement principal pour le ministère, pour Jésus, pour accomplir ce qu'il accomplit. Donc, c'était vrai pour lui, c'est vrai pour nous. En effet, le premier pilier des trois, c'est de savoir qui nous sommes en lui, et c'est être fils et fille de Dieu. Et ça, j'appelle le premier manteau que nous devons revêtir. Il faut enlever les autres avant pour mettre celle-là. Mais le premier, c'est de savoir et de connaître, d'être conscient et de vivre la réalité d'être fils et fille de Dieu. Ce n'est pas seulement d'avoir l'étiquette fils de Dieu, fille de Dieu, mais c'est de le vivre. C'est d'être conscient de qui nous sommes en lui, de quelle est notre relation avec lui. Ça, c'est le premier pilier. Ce n'est pas juste dire, je crois en Jésus, je viens, je suis fils de Dieu, et c'est tout fait. Non, maintenant, je dois le réaliser concrètement. Je dois le vivre, je dois être conscient de ça et vivre selon la dignité et la valeur qu'un fils, une fille de Dieu a. Et ce n'est pas une petite chose, je vous dis, je viens de loin. Ils me connaissent, ils savent que je viens de loin. Et je suis encore en train de vivre ça, parce qu'on est toujours défié sur cette réalité, parce que les gens s'attendent de nous d'autres choses, mais Dieu s'attend de nous que nous vivons comme des enfants. Dieu ne nous a pas fait des chrétiens, ça c'est pas notre identité, il ne nous a pas fait des serviteurs, il nous a sortis de l'esclavage, nous ne sommes pas esclaves, nous ne sommes pas évangéliques, nous ne sommes pas pentecôtistes, nous ne sommes pas protestants, nous ne sommes pas réformés. Nous, la parole de Dieu définit qui nous sommes fils et filles de Dieu. Point. Il y a un texte que j'aime en Romains, il dit que la création attend avec impatience, avec souffrance, la manifestation des chrétiens dans le monde. Des enfants de Dieu. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Ça veut dire la première chose que nous, en effet, le mot... Un Romain qui parle de fils mûr, que c'est le mot ouios, que c'était la définition de Jésus comme fils. Jésus est ouios de Dieu. Le mot ouios, ça veut dire quelqu'un qui représente dans son être, dans sa vie, le caractère du Père. Ça veut dire que les gens reconnaissent qui est le Père parce que je le montre comme fils, comme fille. C'est ça, vivre consciemment, être fils et fille. C'est pas de dire je suis fils de Dieu. Est-ce que les autres savent qui est ton Père? Est-ce que tu es à l'image de ton Père? Est-ce que moi je suis à l'image de mon Père? Est-ce que les autres voient qui est mon Père? Parce que ça, c'est mon identité. Je suis son fils parce que je montre son caractère. Ce n'est pas une chose facile. Ça, c'est le premier positionnement que nous devons chercher. Nous ne devons pas vivre comme des chrétiens, ni comme évangéliques ou n'importe quoi. Nous devons vivre comme fils et filles de Dieu. Les gens doivent connaître le Père. Ça, c'est le but de Jésus. Qui m'a vu, a vu le Père. C'est notre mandat aussi. Mais pour le vivre, il faut qu'on soit, qu'on vit cette communion tellement avec Dieu qu'on se confronte, on met au test notre être dans le miroir de Dieu le Père lui-même. Est-ce que je lui ressemble ou pas? Qu'est-ce que je représente aux autres? Ça, c'est la première chose. On ne peut pas rentrer dans ce que Dieu a pour nous comme d'autres, avec d'autres manteaux, avec d'autres étiquettes, et pas surtout pas d'étiquettes, mais avec une réalité, une vie réelle qui manifeste que nous sommes fils et filles de Dieu. Et je dois aller vite parce qu'il y a d'autres manteaux, mais de piliers. Mais il y a une autre chose dans le fait d'être fils et fils, ça c'est la plus importante, représenter Dieu, montrer qui nous sommes et à travers de nous les gens puissent connaître le Père. C'est pas beaucoup à travers de mots. Les gens nous connaissent pour le caractère que nous portons en nous, et c'est le caractère du Père, ça c'est le grand défi. Parce qu'aujourd'hui de Dieu il y a partout, donc c'est une telle confusion, Dieu est celui-là, Dieu est le Dieu des chrétiens, Dieu est Dieu des arabes, des musulmans, Dieu est Dieu des bouddhistes, je dis c'est le mélange plus complet, c'est juste des mots, c'est juste des étiquettes. Les gens ils ont besoin de voir une réalité de qui nous sommes et voir qui est le vrai Dieu qui se manifeste avec nous. L'autre raison pour être conscient d'être fils et fils de Dieu, qui est comme fils et fils de Dieu, et ça nous amène à les deux suivantes, c'est que nous sommes aussi héritiers avec Dieu. Et ça, c'est une autre chose. Être héritier avec Dieu, c'est une grande responsabilité qu'on peut prendre et on peut recevoir et prendre seulement si on est conscient, si on est fils et fils. On ne peut pas être héritier si on n'est pas fils et fille. C'est ça, c'est un acte légal. Je deviens héritier de mon père, comme c'est écrit en Romains, parce que je suis son fils. Et je suis dans une position d'héritier légal si je vis comme fils. Ce n'est pas seulement parce que c'est écrit sur le papier, je dois le vivre. Et notre héritage est la terre, ce n'est pas le ciel. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, et Dieu a donné à Christ son fils la terre comme héritage, le psaume 2. Donc nous sommes héritiers de la terre, ça c'est, nous sommes héritiers de tout ce qu'il y a autour de nous dans ce monde et de tout ce qu'il y a dans ce monde et nous avons tout ça comme responsabilité, comme gestionnaire, fils gestionnaire de ce que ça appartient à notre Père et nous avons une grande responsabilité et la responsabilité c'est de faire du bien dans cet héritage, de bénir toutes les familles de la terre. C'était le même message, le même appel que Dieu a donné à Abraham. Et pour faire ça, comme fils et filles, depuis que nous avons cette responsabilité, ce n'est pas une responsabilité qui est de vivre comme un devoir. Ça, c'est la dernière chose que je veux dire. Un fils, ce n'est pas un serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qui sert le business de quelqu'un d'autre. Le fils, c'est quelqu'un qui sert son propre business, le business de son père. Et il ne le fait pas par devoir. Il le fait parce qu'il aime le père, parce qu'il est dans une relation d'amour avec le père. Il aime ce qui appartient au père et il aime faire ce que c'est bien pour le père. Moi, j'ai vécu pas mal de temps comme un devoir. On doit faire ça, je dois faire ça, je ne dois pas faire cela. Ça, c'est un langage d'esclave. Le langage de fils et filles, c'est « j'aime faire la volonté de mon Père et je le fais avec joie parce que je l'aime. » Autrement, ça ne sert à rien, l'apôtre Paul l'a dit. Ça, c'est être enfant. Ça, c'était juste le premier pilier. Ça fait un chapitre qui me pose... Mais... Oui, en plus on a l'ADN du Père. Je ne vais pas trop rentrer là, on n'en sort plus. Mais nous avons l'ADN spirituel du Père. La vie du Père, le caractère du Père court dans nos veines. Le sang de Jésus coule dans nos veines. Je dois aller plus loin. Il y a le fait d'être fils et fille, ça nous amène à deux autres piliers. Et qu'on trouve en Apocalypse chapitre 5. C'est une autre chose qu'on sait dans la tête, mais une autre chose c'est de le vivre. Chapitre 5 de l'Apocalypse, versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, ou comme dit une autre traduction, des sacrificateurs et des rois, pour notre Dieu et régneront sur la terre. » Alors Jésus nous a rachetés par son sang, et c'est vrai que la première chose qu'il a fait, il nous a rendus fils et filles de Dieu. Ok, ça on l'a dit. Mais au-delà de ça, il nous a fait aussi sacrificateurs et rois. Et ça, c'est deux autres piliers qu'on doit réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire être sacrificateur et roi? Parce que nous sommes tous sacrificateurs et rois. Ça, c'est notre positionnement pour le service. Être fils et fille, c'est notre positionnement pour la relation avec Dieu et pour le droit légal d'agir dans son nom sur cette terre, parce que c'est notre héritage comme fils et fille. Et ça concerne la façon avec laquelle nous relationnons avec lui, nous vivons notre vie personnelle intérieure avec lui. Nous sommes des enfants, nous sommes devant lui parce que nous sommes ses enfants. Nous pouvons rentrer dans sa maison, vivre dans sa maison, se réjouir dans sa maison, être enrichi dans sa maison. Ça, c'est la relation. Mais pour le service, il y a d'autres positionnements. Nous sommes sacrificateurs et rois. Parfois, on se demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est mon appel? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Alors ça, c'est l'appel pour tout le monde, ça on est sûr qu'on l'a tous. Être sacrificateur et roi, c'est un appel, c'est un positionnement, c'est une identité, si on peut dire, et c'est un appel que c'est pour chacun de nous, et ça c'est clair. Si nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire être sacrificateur et roi en pratique, sera très facile de comprendre à quoi Dieu nous appelle après. Parfois on dit, mais qu'est-ce que c'est notre appel? Bon, notre appel de chacun ici, c'est de sacrificateur et de roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme fils, nous sommes fils, et comme fils, nous sommes sacrificateurs et rois. Ces deux positionnements très importants, maintenant, pour agir dans le monde. Et pas seulement dans le monde naturel, mais dans le monde spirituel. Déjà, l'identité d'être fils et fils nous amène dans une réalité surnaturelle de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vivre cette relation avec Dieu dans le naturel, on le vit dans l'esprit, déjà. Donc, nous vivons dans un royaume spirituel. Et nous sommes appelés à manifester quelque chose dans ce monde, à agir dans cet héritage. Et Dieu nous a donné deux positionnements qui sont extrêmement importants pour être efficaces dans tout ce que nous faisons, n'importe quoi nous faisons, à partir de nettoyage des toilettes, à être des missionnaires qui vont de l'autre côté du monde. C'est le même pour tous. Dans tout ce que nous faisons et que Dieu nous appelle à faire, nous devons le faire comme des sacrificateurs et comme des rois. Parce qu'il y a un but dans tout ça, c'est d'accomplir ce que c'est la prière de Jésus qui a dit, priez comme ça. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme est faite dans le ciel. Ça, c'est le but. Et ça, on peut l'accomplir seulement déjà en vivant comme des enfants, et l'autre en vivant dans tout ce que nous faisons comme sacrificateur et comme roi. Et je vous explique ce que je veux dire. Enfin, ça, c'était le ministère de Jésus. Jésus était en même temps sacrificateur et roi. Il est en même temps maintenant grand sacrificateur et roi parce qu'il était sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et pas selon l'ordre de Lévi. Donc il était les deux ensemble. Et nous, en lui, nous avons les deux ensemble. Nous sommes sacrificateurs et roi. Roi soumis au roi de roi. On règne pas dans notre nom, mais dans son nom. Ça, c'est notre histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sacrificateur et roi? Que ça veut dire servir comme sacrificateur et roi? Parce que le sacrificateur et le roi, ils ont deux buts différents et ils doivent fonctionner ensemble. Si nous voulons accomplir quelque chose qui amène le royaume, nous devons être efficaces dans les deux. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Et le premier qui vient, c'est le sacrificateur. Qu'est-ce que c'est le sacrificateur? On apprend dans le Saint-Testament. Je dis, le premier but du sacrificateur, c'est de servir Dieu, lui, de le servir dans sa présence. De servir lui et seulement lui, ça c'est la première chose, servir sa gloire pour ce qu'il est, ça c'est une chose. Et l'autre chose, le sacrificateur, c'est de servir les autres, ou servir ce monde de la part de Dieu. Et quel c'est dans ce cas le service du sacrificateur? Le service du sacrificateur, c'est d'avoir accès à la présence de Dieu et de réconcilier la terre avec le ciel afin que le ciel s'ouvre et Dieu puisse agir sur cette terre. Si on ne fait pas ça avant, ce qu'on va dire après, ça ne sert à rien. Parce que si les ciels ne sont pas ouverts sur un lieu, même sur une personne, ça commence même dans la relation d'aide. Notre territoire, c'est la personne avant tout. Dans l'intercession, on s'élargit, ça devient un territoire. Mais c'est le même principe. Si je veux que la gloire de Dieu puisse toucher la personne, un domaine ou un territoire, j'ai besoin que le ciel soit ouvert sur ce domaine, sur ce territoire. J'entends parfois la prêche de quelqu'un qui dit « Les ciels sont déjà ouverts sur nous ». Oui et non. Jésus, oui, a ouvert le ciel, mais il y a des situations dans lesquelles, dans le monde spirituel, il y a des tampons, des obstacles que l'ennemi essaye toujours de mettre pour empêcher que cette ouverture puisse se manifester sur la terre. On le voit dans le livre de Daniel, enfin. Et Jésus, c'est vrai, il a ouvert le ciel. Lui, il marchait toujours avec les cieux ouverts sur lui. C'était le seul qui marchait comme ça dans ce moment. N'importe où il allait, le ciel était ouvert sur lui, parce que lui, il était le pont entre le ciel et la terre. Et nous sommes appelés à aller devant le Seigneur pour régler les choses qui donnent le droit légal à l'ennemi de faire ce blocage pour que le ciel ne soit pas ouvert sous un lieu. Et nous sommes devant le Seigneur pour réconcilier ce domaine en bas avec lui, par l'œuvre de résurrection, de rédemption de Jésus, afin que, réconcilié avec lui, Dieu puisse libérer sa gloire et puisse manifester vraiment son royaume, sa volonté sur la terre. Après, je vous donne des exemples. Ça, c'est notre premier service dans tout ce que nous faisons. Je dis, dans la relation d'aide, je veux prier pour la guérison et pour de la personne. Avant tout, je dois être prêt à voir le ciel ouvert sur cette personne. On l'a vu encore dans ce jour, on a prié pour les gens. Quand le ciel est ouvert, tout est possible. Et le ciel, ce n'est pas ouvert seulement à ce niveau-là, le ciel, ça doit être ouvert aussi ici, surtout pour une personne. Et ça veut dire que cette personne doit être aidée dans le ministère des sacrificateurs. J'aide cette personne, je l'amène devant la présence de Dieu afin qu'elle puisse régler les choses devant lui et que le ciel s'ouvre sur elle afin qu'elle puisse recevoir la guérison, la bénédiction. Ça, c'est le devoir de sacrificateur. Après, il y a le roi. Et la position du roi, c'est qu'enfin, depuis que les cieux sont ouverts, maintenant, je peux agir dans l'autorité de Dieu, dans ce domaine libéré, pour que la volonté de Dieu soit accomplie avec de paroles que je reçois du Seigneur, et avec cette parole d'autorité, je veux libérer sa volonté et son règne sur la terre. Ça veut dire, comme pour retourner à l'exemple de la relation d'aide, quand le cœur de la personne s'ouvre, le ciel est ouvert sur cette personne et dans son cœur, alors je peux prier la guérison, je peux prier la délivrance, j'ai l'autorité de chasser des démons, j'ai l'autorité de proclamer sa guérison, ça dans l'autorité de Jésus comme roi. Et ça c'est vrai pour tout le monde. Pour tout service, c'est la même chose. Ah, je dis nettoyer les toilettes. Si nous faisons ce service-là, que c'est très humble, si on veut. Parfois, il faudrait commencer par là, tous les services, parce qu'après, on n'est plus humble pour le reste. Humble. Mais si je sais qu'avec ce que je fais, je déplace quelque chose dans le monde spirituel, et je libère dans un endroit la présence de Dieu, je suis en train de faire des trous dans à niveau spirituel. Des trous dans lesquels Dieu peut agir à niveau territorial. Nous fonctionnons à niveau territorial, nous devons libérer des territoires, des domaines, afin que Dieu puisse agir dans ces domaines. Et là où nous sommes, n'importe là où nous sommes, même dans le bus ou dans le supermarché, nous pouvons être des sacrificateurs pour ouvrir les cieux dans ce lieu. Et là, il peut y avoir des choses qui se passent, parce que quand les cieux sont ouverts, les cœurs sont ouverts, et ce que nous allons dire, même une parole d'encouragement, même juste une appréciation de la personne, ça va faire « Dieu agit, Dieu fait des choses, Dieu change. » Il a dit « Seigneur, nous devons prendre davantage à fonctionner comme ça. » Parce que ça, c'est la vie des enfants de Dieu. Je n'ai pas envie de dire la vie chrétienne parce qu'on rentre nouveau. Non, fils et fils de Dieu, nous sommes ici pour ça. Nous ne sommes pas ici pour faire une promenade. Nous ne sommes pas ici pour être des religieux, nous sommes ici pour être des fils et filles qui servent comme sacrificateurs et comme rois. Juste pour donner une autre image, agricole. J'aime beaucoup cette image de parabole sans Jésus. Le sacrificateur, c'est celui qui prépare un terrain pour être semé. Et le roi, c'est celui qui sème dans un territoire préparé la semence de Dieu qui va être reçue et amenée de fruits. Comme ça, vous avez une autre image. Mais ça, c'est nous. Tous les autres manteaux qu'on a pu mettre sur nous, ça ne sert à rien du tout. Même les étiquettes qu'on met sur nous, pasteur, enseignant, ça c'est des rôles, ça c'est des fonctions. Ce n'est pas notre identité. Ce n'est pas notre positionnement devant Dieu. Si je ne suis pas fils, sacrificateur et roi, ça n'importe rien. Si je mets une étiquette pasteur, enseignant, berger, évangéliste, machin, ça ne sert à rien, ce n'est pas ça. Et là, il y a notre problème aujourd'hui, parce qu'il y a, et je vois autour de nous dans le monde, qu'il y a cette pression de mettre une étiquette et d'être reconnu par une étiquette. Mais ça ne sert à rien, ça. L'ennemi s'en fiche de ça. Ce que l'ennemi a peur, c'est que nous savons qui nous sommes, comme fils et filles, que nous savons ce que ça veut dire, vivons comme sacrificateur et comme roi, c'est ça qu'il a peur. Lui, ça ne fait rien pour lui, notre étiquette, et ça ne devrait faire rien pour nous non plus. Ce qu'importe, c'est que nous faisons. Si nous avons une fonction, ça c'est la fonction, ce n'est pas nous qui nous sommes, ce n'est pas ça qui est inefficace. Ça c'est l'instrument que Dieu utilise pour servir. Mais c'est comme nous servons que c'est important. Quelqu'un a dit, nous devons servir comme des rois et régner comme des serviteurs. J'aime ça. Parce que Jésus a fait ça. On a peur d'être vu humble devant les gens. Aujourd'hui, je vois toujours que des âmes, des personnes, ils se mettent devant et ils veulent le respect, l'honneur des gens, ils veulent être reconnus. Mais moi, je suis ça, moi, je suis là. Moi, je suis un fils de Dieu, point. Et je veux être un sacrificateur et un roi. Mais j'ai perdu la pensée. On essaie toujours d'être reconnu. Et on a peur de s'approcher aux gens, parce que si je m'approche aux gens, après je perds ma respectabilité. Ça veut dire que je ne sais pas qui je suis. J'aime ce texte j'essaie de me rappeler en français, c'est en Jean chapitre 14, qui dit que, ou 13, non 13, que quand ils ont fini le repas, Jésus a dit que l'évangile de Jean, il s'est dépouillé de ses vêtements et il a commencé à laver aux pieds, les pieds aux disciples. Il a dit, en sachant, qu'il avait accompli son œuvre, il savait qu'il était maintenant devant le Seigneur, il savait sa position devant Dieu, ce qu'il était pour son Père, en se connaissant son identité, son but, tout ce qu'il était. Il a pu se dépouiller de ses vêtements, se mettre devant les disciples, il avait les pieds, et il n'a rien perdu de sa respectabilité. Parce que sa respectabilité, ça ne dépendait pas de ses habits ou de ses positions, ça dépendait de qui il était. Si on a peur de perdre le respect parce qu'on s'approche trop aux petits, comme on dit, en plus, ça veut dire qu'on ne sait pas qui nous sommes. Si nous mettons toujours la pression sur ce que c'est notre fonction, ça veut dire que nous ne savons pas qui nous sommes. Ça veut dire que notre identité, c'est dans notre rôle. Et les gens, ils doivent nous respecter pour notre rôle. Non, moi j'aimerais que les gens me respectent parce qui je suis. Si je reconnais en moi le Père, ça c'est le respect. Je peux avoir même l'étiquette, les gens ils peuvent respecter l'étiquette, mais ça ne sert à rien. Ce que les gens doivent réaliser, voir, reconnaître, c'est qui je suis en Dieu. Est-ce que je ressemble à Dieu? Est-ce que je ressemble à mon Père? Est-ce que je suis en train de vivre cette réalité de ces trois piliers dans ma vie? Ça c'est la réalité. C'est ce qui sort de lui au travers de moi qui compte. En effet, et je vais terminer, une fois que nous pouvons rentrer dans cela, nous sommes conscients de ça et nous le vivons, pas seulement être conscients, mais nous le vivons. Ah, je veux dire une autre chose. Je parlais des gens qui se mettent toujours avec l'étiquette de se montrer pour être quelqu'un. Il y a un autre problème. Il y a le problème des autres de l'autre côté qui disent « Oh, mais moi, je n'ai rien, moi, je suis petit, moi, je suis juste... moi, je n'ai rien, moi, je n'ai rien à donner, je suis juste un chrétien. » Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Et ça, c'est vraiment un manque de respect vers Dieu. Parce que ce Dieu dit que nous sommes fils et filles à lui, donc nous sommes aussi fils et filles du roi. C'est Dieu qui dit qu'il nous a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Il a une dignité là-dedans, une grande dignité, une grande valeur. Et si nous disons que nous sommes pauvres, nous disons oh, « Seigneur, tu n'as pas fait assez sur la croix. » Parce que tu l'as fait pour d'autres, pas, mais moi, l'esprit de pauvreté de l'Église. L'Église est pauvre parce qu'elle vit dans un esprit de pauvreté, parce qu'il ne connaît pas son identité, parce que ses membres ne connaissent pas qui ils sont. Soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est ça l'alignement. L'alignement, c'est d'être là où Dieu nous a mis avec Jésus, et le vivre, et le réaliser. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un autre chapitre qu'on ne va pas toucher aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, bien sûr. C'est que quand nous savons qui nous sommes en Dieu et nous le vivons, il y a un autre domaine qui est encore plus grand que ça, c'est de savoir et de vivre ce que lui est en nous. Hein? Savoir qui nous sommes et le vivre, ça veut dire être un réservoir prêt à être rempli de lui. Si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne sommes pas ce réservoir, ce conteneur, on dit comme ça, conteneur, pardon, merci, c'est toujours là, hein, c'est pas changé, il y a encore des trucs. C'est Cathy, oui, quand même. Soit c'est Cathy, soit Nadine, donc c'est des points de référence pour enfin. Des conteneurs, voilà. Si nous sommes ce contenant, Dieu peut déverser ce qui est à lui. Si nous ne sommes pas prêts pour ça, qu'est-ce qu'il déverse? Alors ça veut dire, avant tout, je dois savoir qui je suis et le vivre. Et c'est là que Dieu me remplit. Alors je dois connaître qui c'est lui en moi. Et comment il va vivre en moi et se manifester. Parce que l'autre texte que ça me bouleverse chaque fois, c'est cela de Galates 2:20, ce que l'apôtre Paul a dit, parce que lui, il avait déjà compris les deux, il dit, parce que je sais plus moi, c'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Oh, Seigneur. Parce qu'enfin, si on va faire quelque chose de bon, comme enfant, comme sacrificateur, comme roi, on le fait seulement parce que Jésus vit en moi. Et à nouveau, à ce point-là, vous voyez, il y a une autre chose qui se passe, que moi, je vais disparaître, et Jésus va paraître. Parce que les gens, ils n'ont pas besoin de me voir. Les gens, ils ont besoin de voir Jésus en moi. Jean-Baptiste a dit, je dois diminuer, non, lui doit augmenter, moi je dois diminuer. Parfois, on marche dans le contraire. Mais c'est juste l'inverse. Ce que les gens ont besoin, ce n'est pas de me rencontrer, mais de rencontrer Jésus au travers de moi. Et donc, s'il y a quelqu'un qui doit être glorifié, c'est lui. C'est pour ça que quand quelqu'un dit « Oh, c'était bon le message », moi, je ne me sens pas à l'aise. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose de bon, ce n'est pas à moi. Alors. Si aujourd'hui, je dis quelque chose de bon, je vous dis que ce n'était pas à moi. Comme dit l'apôtre Paul, il n'y a rien que nous n'avons pas reçu. Donc, de quoi on doit se glorifier? S'il y a quelque chose de bon qui sort de nous, en fait, ce n'est pas nous, on l'a reçu. On est des vases remplis qui on donne exactement seulement ce qu'on a reçu, c'est rien de notre. Tout ce que nous avons en notre vie, déjà, ça ne nous appartient pas. Donc, merci pour l'encouragement, mais enfin, ce n'était pas pour moi, merci. C'est ça la conscience dans laquelle nous allons entrer dans cette nouvelle saison. L'Église des derniers temps, c'est ça. C'est pas ça que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y aura une église formelle, une église, une fausse église qui vit de la gloire des hommes. Et il y a l'église de Dieu qui vit de la gloire de Dieu et qui manifeste sa gloire. Et c'est Dieu qui va être manifesté, parce que c'est le roi que nous attendons. C'est lui qui va changer le monde. C'est lui qui va mettre tout l'ordre. Et à lui doit aller toute la gloire. Et donc on est là, je dis, moi je suis là en train de réfléchir toutes les choses pour ma propre vie. Je dis, parce que j'ai 70 ans, Dieu continue à répéter que ce n'est pas fini avec nous, avec Paul et moi. Parce qu'en effet, moi, je n'ai pas l'envie de m'arrêter. Moi, je veux voir ce que j'attends depuis 70 ans presque. Moi, je l'attends, je ne l'ai pas encore vu, je veux le voir. J'ai goûté une entrée dans les années 94, 96, 97, 98. C'était juste l'apéro. On a perdu l'apéro parce qu'on n'a pas voulu aller jusqu'au bout. D'être. Mais moi, je tends le crépat maintenant. Moi, je vois la gloire de Dieu. Moi, je ne veux pas seulement rigoler, partir comme un fou dans la joie du Seigneur. Moi, je ne veux pas seulement voir d'autres choses comme ça. Moi, je vois sa gloire. Car dans sa lumière, moi, je ne suis plus là. C'est lui qui reste. Ce n'est plus nous, ce n'est plus l'Église, les dénominations, laquelle. C'est le peuple de Dieu, les fils et filles de Dieu. La création attend la manifestation de quoi? Des fils et fils de Dieu, et filles de Dieu. Amen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vous encourage. J'espère que je vous encourage à aller plus loin. Est-ce que je peux dire une chose? J'ose. Depuis qu'on a vécu là, depuis un temps, donc on a une familiarité, un lien familial. Comment je veux dire? Quand j'étais là ce matin, je ressentais deux goûts différents. Je sentais un goût vieux et un goût nouveau. Comme les deux sont là, qui se battent de quelque part pour vivre l'un l'autre. Je pense qu'on doit sortir de cette ambivalence et enfin choisir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut qu'on reste là où nous sommes? Quoi pas, hein? Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu ici? Si on avait la gloire de Dieu ici, on ne serait pas assis sur cette chaise. Et moi, je ne serais pas là debout. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui disent, il y a la gloire du Seigneur. Montre-moi, moi, je connais la gloire du Seigneur quand elle se manifeste dans la Bible, bonjour. Et nous, on n'est pas différents. Ce n'est pas que nous, on est là, la gloire de Dieu, nous, on reste là parce que nous sommes... Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, on doit choisir. Et ça, c'est le tri qu'il doit faire dans notre vie. C'est le choix qu'on doit faire d'être aligné avec lui et de dire, Seigneur, n'importe quoi, tout le reste, le passé, ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, tu veux nous faire entrer dans ce que tu as pour aujourd'hui et je suis prêt à mettre tout à la croix. La croix, c'est le lieu de séparation entre le vieux et le nouveau. Il n'y a pas d'autre mode, manière de l'aider de l'autre côté. Ça, c'est encore un autre chapitre, mais je ne rentre pas. Mais la seule façon de l'aider d'un autre côté, c'est de laisser à la croix tout ce que Dieu nous demande de laisser à la croix. Ils ne sont pas seulement des péchés, ils ne sont pas seulement des iniquités, c'est même des choses qui étaient bonnes dans le passé qui sont plus bonnes pour la prochaine saison. Ça veut dire aussi abandonner des relations qui allaient bien dans le passé, qui vont plus bien pour maintenant. Il ne faut pas dire qu'on n'aime pas les personnes ou qu'on rejette les personnes. C'est que pour avancer, il faut avancer avec les personnes qui sont avec nous de l'autre côté de la croix. Si vous ne voulez pas venir de ce côté de la croix, que le Seigneur bénisse, mais je veux aller plus loin. Ça semble dur, cet raisonnement. Mais c'est comme ça. Dieu l'a fait avec Abraham. Désolé, je dis ça. Dieu a dit, laisse toute ta famille, ta nation et va dans le lieu que j'ai pour toi. Et lui, il est resté avec son père et donc il s'est arrêté jusqu'à son père est mort. Okay? Et après, il a regardé l'autre parce que c'était son neveu, le pauvre, le petit. Il est resté là jusqu'à quand Dieu lui a dit, maintenant, ça suffit. Et laisse partir. Et quand l'autre est parti, alors Dieu l'a mené sur cette montagne et dit, regarde, tout ce qui est devant toi maintenant, ça, c'est l'héritage que pour toi. Maintenant, tu rentres. Et moi, je ne veux pas l'échapper. J'aime les personnes, mais il y a des relations avec lesquelles je peux pas. Je peux avoir des relations d'amitié, mais je ne peux pas avoir une relation de compagnon de voyage. Parce que pour marcher ensemble, on doit être aligné de la même façon. Ça ne veut pas dire que Dieu va rejeter les autres. Mais enfin, si on doit avancer et faire ce que Dieu a pour nous maintenant, il faut, c'est du sérieux et c'est du choix, que ça nous coûte la croix. Et la croix, ça doit devenir à nouveau un sujet fondamental pour notre vie. C'est ce que Dieu m'a dit la dernière semaine. Il faut retourner à la croix, et en sachant qu'on doit prendre notre croix chaque jour, pas pour souffrir, mais pour laisser à la croix tout ce qui nous empêche d'avancer dans le chemin de Dieu. Tout, le mauvais et le bon. Comme nos Isaac, il faut le laisser à la croix. Il y a beaucoup de choses que nous avons faites, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Et ça, bonjour, c'était dur pour Abraham. Et en plus, Dieu lui a demandé de laisser et de mettre à la croix même ce que c'était la promesse. Même ce que nous aimons, même ce que nous recevons de Dieu, nous devons le laisser à la croix comme c'était à lui. Parce que la chose qui reste, c'est l'amour pour Dieu. Et même pas l'amour pour les choses qu'il nous donne. Même si Dieu nous donne grand chose, c'est pas ça notre amour. C'est même pas dans les choses que Dieu nous donne, c'est dans Dieu lui-même seulement. Et donc même les choses que Dieu nous donne, qui peuvent être de grosses choses, grandes choses que Dieu nous donne, doivent être à la croix. Il doit appartenir à lui. Je les garde, mais ils ne sont plus à moi, ils sont à lui. Parce que ce qui est la motivation de ma vie, mon amour, c'est l'amour pour Dieu seulement. Je dois m'arrêter ça, Seigneur. Merci, Père. Père, merci parce que tu nous parles dans ces derniers temps et nous amène vraiment aux fondations de ce que, au fondement de ce que c'est vraiment ta volonté, tes principes, tes valeurs, parce que c'est le moment de le faire, c'est le dernier temps, c'est le temps dans lequel tu veux manifester cette épouse rayonnante, sans rides, sans tâches, qui te glorifie, parce que c'est cela que tu viens chercher. C'est pas que tu vas la transformer après, tu veux la transformer maintenant, afin que tu viens chercher cette église qui va montrer dans le monde, dans ces derniers temps, qui sont vraiment les enfants de Dieu. Et donc, reconnaître toi et donc te chercher comme dernière chance dans ce temps. Et Père, nous demandons ta grâce parce que tu puisses faire cet alignement de notre vie à niveau individuel, à niveau collectif, comme peuple. Père, c'est le moment et nous ne pouvons pas l'échapper parce que nous allons perdre quelque chose si nous échappons ça, Seigneur. Et après, on ne se retrouve plus. Et Seigneur, nous voulons vivre pleinement, nous voulons rentrer, Seigneur, dans ce que tu as pour nous, pour ta gloire. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas parce que nous allons être bénis, mais parce que tu vas être béni, reconnu et glorifié. Enfin, ça, c'est le but, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous libères de toutes choses qui nous gardent en arrière et qui nous donnent vraiment de comprendre la valeur de la croix, où nous pouvons vraiment laisser les choses qui ne sont pas alignées avec toi et que nous soyons revêtus seulement du manteau que tu nous donnes, fils et fille, sacrificateur et roi. Et c'est tout. Merci Seigneur. Bénis cette communauté, Seigneur. Tu sais qu'on a un cœur pour cette communauté, même si on n'était pas là beaucoup de temps, mais tu es toujours dans notre cœur parce qu'on a, des relations, on a des mémoires, on a des choses qu'on a vécues et qui sont précieuses pour nous, Seigneur. Et je prie que tu la bénisses vraiment abondamment. Et que tu les amènes vraiment à être cette lumière dans le monde, dans cette ville, dans cette nation en particulier, mais dans le monde entier, Seigneur. Et merci, Père, pour ce que tu vas faire. Merci parce que tu es fidèle et tu vas l'accomplir. C'est ta volonté, Seigneur. Et si nous sommes disponibles, Seigneur, il n'y a rien qui puisse t'arrêter dans ton but, dans ton dessein. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si c'est bien.